Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Eh bien, vous savez, à Kinshasa et ailleurs, à travers le pays, il y a eu des démolitions, n'est-ce pas, des maisons qui sont qualifiées de constructions anarchiques. À Kinshasa, par exemple, dans la capitale, dernièrement, il y a eu une récente opération qui s'est déroulée au camp Kokolo, dans la commune de la Gombe, et à Kingabwa, dans la commune de Limété, particulièrement au quartier communément appelé Grand Monde. Les maisons ont été démolies aux grandes dames des propriétaires. Alors, la police a détruit ces maisons construites sur ces deux sites au motif qu'elles étaient érigées sur des sites inappropriés. Et on note cependant, actuellement à Kinshasa, les maisons poussent un peu partout, les gens construisent. Eh bien, quelle est la procédure à suivre pour construire et quelles sont les normes à respecter, n'est-ce pas, pour ne pas tomber aussi dans ces genres de cas? Vous êtes à l'étranger, disons, vous êtes à l'intérieur du pays, dans les provinces aussi. Si vous êtes habité à ces mêmes problèmes, n'hésitez pas. Au Capi Service aujourd'hui est là pour vous rendre service. Nous allons recevoir des invités qui vont vous prodiguer des conseils, qui vont vous aider peut-être dans les démarches que vous devez suivre pour obtenir un terrain ou pour démarrer une construction. Alors n'hésitez pas, nos numéros de contact sont les suivants. Pour les appels composés, le 081-890-63-94. Pour les SMS, faites le 081-070-2050. Et pour ceux-là qui nous suivent en direct, en live, sur Internet, à l'étranger ou ailleurs à travers le pays ou en Afrique, écrivez-nous pour participer à l'adresse action@radiocapi.net. Nous avons déjà en ligne professeur José Baminikio, expert en urbanisme et habitat. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Dernièrement, il y a eu démolition des constructions anarchiques à Kinshasa. Est-ce qu'on peut affirmer qu'aujourd'hui, les normes urbanistiques sont respectées lors des constructions des maisons qui poussent de plus en plus à travers la ville aujourd'hui?
Oh, merci bien pour la question, c'est très important. La grande difficulté que nous avons dans la ville de Kinshasa et dans les autres villes de la République du Congo, c'est que nos villes n'ont pas de plan général. Même si nous avons des plans, ce sont des plans qui datent depuis longtemps et qui sont présents sur la parcelle ou bien
dehors. Allô, professeur?
Oui.
Il y a un problème au niveau de la connexion au téléphone. Vous êtes peut-être dans un endroit fermé. Si vous pouvez bouger un tout petit peu ou sortir à l'extérieur.
D'accord. Je sors dans la maison. Je sors. Maintenant, ça va?
Oui, ça va. Allez-y maintenant.
Oui, c'est bon. Je disais, c'est une très bonne question. La grande difficulté que nous avons, c'est que dans la ville de Kinshasa et dans les autres villes de la République démocratique du Congo,
oui,
nous n'avons pas de plan d'aménagement général, même si nous avons des plans, mais ça date de très très longtemps. Je prends l'exemple de la ville de Kinshasa, et le plan en vigueur date de 1967, mais le BAU, qui est le Bureau d'aménagement d'urbanisme, a élaboré un plan depuis 1975 qui n'a jamais été approuvé. C'est-à-dire la grande difficulté que nous avons, les gens qui veulent construire et ne savent pas comment faire parce qu'il n'y a pas un plan de base de l'aménagement général à la ville de Kinshasa. Et c'est ça qui fait que les gens construisent n'importe partout. Alors, d'après la loi, d'après les normes urbanistiques, une ville doit avoir un SDO. Le SDO, c'est-à-dire le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme.
Oui.
Donc, si nous voulons remettre les choses en ordre, nous devons commencer par actualiser le plan général d'aménagement de la ville de Kinshasa.
Voilà, donc il y a beaucoup de problèmes par rapport aux constructions. Nous avons déjà en ligne Madame Pamela qui nous appelle depuis la ville d'Elikasi, qui voudrait bien poser un problème afin d'avoir des solutions. Madame Pamela, bonjour.
Bonjour, c'est Pamela depuis l'Itaci, graduée en géologie.
Oui,
voilà. Et je voulais parler sur la ville de l'Itaci.
Oui.
Nous avons constaté ici à la ville de l'Itaci, communément appelée la ville montagneuse, les gens construisent des constructions anarchiques sur la colline, les sites ou à danger. Nous avons constaté à la colline de Kampumpi, les gens construisent la colline de Kampumpi, que les gens construisent des maisons qui ne sont pas très bonnes et des conditions qui ne méritent pas. Nous avons aussi constaté à la colline de Kampumpi et de la colline de Mangeurs de Cuivre, la colline qui est appelée qu'on appelait la colline touristique, qui était un site touristique. Mais aujourd'hui, les gens ont construit en désordre là-bas. Maintenant, l'opération, j'ai constaté que l'autorité de Likasi a commencé à démolir les maisons là-bas. Maintenant, les gens construisent sans l'autorisation du cadastre, les gens construisent sans l'autorisation du cadastre en complicité avec les chefs du quartier. C'est pourquoi je demande à la population de ne pas construire dans les sites comme les collines de Kampoupi, parce qu'il y a un danger pour la population.
Merci beaucoup, Madame Pamela, pour votre réaction. Professeur, vous avez suivi. Est-ce que c'est interdit de construire, par exemple, sur une ville collinaire ou un espace où il y a une colline?
Bon, de toutes les façons, nous disons ceci, il y a des collines, il y a des collines qui n'ont pas de fortes pentes, et nous avons aussi des collines qui ont vraiment de fortes pentes. Le problème, c'est ce que nous disons, si la pente est de 0 à 2%, on peut construire. Si la pente est de 2 à 4%, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de 8%, ça commence à devenir très difficile. C'est pourquoi les grands problèmes pour répondre à ce genre de questions, c'est de savoir un peu, quelle est la pente qui se trouve au niveau de cette colline-là. Donc, mais si la pente n'est pas forte, on peut construire. Mais si elle est très très forte, au-delà de 8%, on ne peut pas construire. Pourquoi? Parce qu'après, ce sont des érosions qui arrivent, des éboulements, et ça ne va pas comme le cas de ma campagne ici à Kinshasa, quoi. Mais comme je reviens encore à dire que tout doit partir du plan général d'aménagement de la ville. Oui. À ce moment-là, on sait identifier les sites non à édificandi, c'est-à-dire des sites qu'on ne peut pas construire et des sites qu'on doit construire. Donc tout doit commencer par les études qui doivent se faire au préalable, ce qui n'est pas le cas pour la République démocratique du Congo.
Oui, nous avons également en ligne M. Jeff Wombe qui nous appelle depuis la commune de Limété ici à Kinshasa. Jeff, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez des problèmes, une préoccupation par rapport au sujet qui est abordé aujourd'hui?
Ah oui, je voulais aussi, j'ai acquis un terrain au niveau de le Mbaïmbo, l'allotissement qu'on a fait à 96 là.
Oui.
Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est possible? Parce que moi, je suis juste au flanc de la colline là, jusqu'à l'arrière des trains là qu'on appelle le Mbaïmbo. Je ne sais pas si c'est un site interdit ou quoi, parce que nous, on a été attribué par les chefs coutumiers. Alors, je voulais savoir avant d'entreprendre les activités pour que je ne puisse pas être victime, peut-être de démolition ou quoi. Je voulais savoir si ce site-là, si on peut construire ou qu'est-ce qu'il faut faire.
Jusqu'à là, vous n'avez pas encore mis en valeur le terrain?
Mais, je devais commencer dans quelques jours, alors.
Oui. Voilà. Merci beaucoup, Jeff, d'avoir appelé. Professeur, vous avez suivi la question de Jeff?
J'ai suivi la question. Vous savez, notre gouvernement, l'État congolais, accepte aussi, parce que nous avons le chef coutumier qui offre aussi de terrain aux particuliers, et nous avons également l'État. Donc, on revient encore à dire, c'est pourquoi nous disons toujours dans les séminaires, il faut que le chef coutumier qui les terres à une bonne gens, il doit s'associer avec des experts pour faire un peu le plan de lotissement. Donc, c'est un peu complexe de répondre tout à l'heure au téléphone à cette question-là, parce que il aurait été mieux peut-être qu'on puisse voir le terrain. Donc, la grande difficulté revient aussi longtemps que nous n'avons pas le plan général pour situer là où il faut construire, là où il faut mettre les gens, où il faut mettre la zone industrielle. Alors, on tourne en rond et ça devient un cercle vicieux, parce que l'État reconnaît aussi aux chefs coutumiers, ils peuvent donner des terrains aux gens. Mais nous disons, pour ces gens-là, les chefs coutumiers qui ont des terrains, c'est mieux de s'associer avec des experts pour voir un peu comment faire, comment l'outil, parce qu'on s'est rendu compte que les terrains octroyés que les chefs coutumiers donnent aux gens, et parfois ils oublient des équipements de proximité. Les équipements de proximité, c'est-à-dire là où vivent les gens, il faut qu'il y ait quand même un marché, il faut qu'il y ait même un centre commercial, il faut qu'il y ait quand même
une école.
Pour, par exemple, si on est malade, on peut aller dans un dispensaire. Il faut qu'il y ait aussi des écoles, parce qu'il y aura des enfants qui seront là, école maternelle, école primaire. Donc, la grande difficulté, c'est que les gens donnent des terrains comme ça, et à la fin, on se rend compte après qu'on n'a pas prévu un endroit pour les sports, un endroit pour ceci. Donc, aussi le fait que nous n'avons pas les plans généraux d'aménagement,
Oui, alors pour le cas précis de ce monsieur qui a déjà acquis un terrain sur le flanc de la colline à Lemba Imbu, maintenant il voudrait bien commencer les travaux, mais il voudrait savoir qu'est-ce qu'il doit faire maintenant. Au cas il a déjà acheté le terrain, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se rendre au ministère des Affaires foncières pour que les experts passent pour voir le terrain. Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Quel conseil
vous pouvez nous prodiguer? Tout commence d'abord par les ministères des Affaires foncières qui gèrent les terres. Hein. Donc, tout doit commencer par là.
Oui.
Donc, comme il a acheté par le chef coutumier, il doit aller voir la division, ou bien au niveau de la division des Affaires foncières. Et cette division-là va envoyer des experts parce qu'il faut faire aussi les bornages.
Oui.
Et les bornages du terrain sera fait par des agents du ministère des Affaires foncières. Et à ce moment-là, si le terrain est... n'est pas à construire, à ce moment-là, ces experts de l'affaire foncière peuvent dire. Et dès qu'ils terminent l'affaire foncière, et quand ils veulent construire, alors ils doivent voir d'abord l'architecte ou bien celui qui est habilité à faire le plan. Et c'est ainsi qu'il va partir maintenant voir le ministère ou bien la division de l'urbanisme et habitat pour demander l'autorisation. Donc pour les problèmes de terre, il faut voir le ministère des affaires foncières. Et quand il s'agit de construction, à ce moment-là, on s'adresse au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Donc tout doit commencer par... il doit aller voir les agents de l'affaire foncière pour les bornages dès qu'ils terminent. Et ça serait maintenant l'affaire du ministère de l'Urbanisme et Habitat.
Voilà, nous avons également en ligne M. Fongui, directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Alors, vous êtes victime d'une démolition, votre maison a été détruite, vous voulez poser des problèmes. Voilà, notre invité est là pour apporter des solutions. Monsieur Fongui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On a suivi dernièrement à Kinshasa, il y a eu démolition des constructions sur l'avenue Prince des Lièges et à Limété également, au quartier appelé communément Grand Monde. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que ces gens n'ont pas obtenu des documents en règle auprès des services de l'État?
Oui, merci beaucoup pour la question, mais j'aimerais d'abord corriger mon débatteur de tout à l'heure.
Oui.
La question de la gestion foncière ne relève pas du tout d'un ministère quelconque. Pour créer un lotissement, c'est une extension de la ville. Or, dans notre ministère, nous avons les attributions de création de nouvelles villes. Alors, tout commence par le plan d'aménagement. Nous avons l'aménagement urbain comme attribution régalienne. On doit aménager la ville, c'est-à-dire établir, élaborer un plan d'aménagement dans lequel il y a affectation du tissu urbain. En ce qui concerne le résidentiel, le commercial, tous les autres secteurs qui interviennent dans la ville. Alors, il n'est pas question pour quelqu'un, quelqu'un de service, de pouvoir gérer la terre sans se référer au plan d'aménagement. Et l'article 141 du code foncier,
stipule
ceci, le département ayant les affaires foncières dans ses attributions, applique la politique de l'État en matière de distribution et d'affectation des terres. Alors, la confusion vient du fait que les gens ne voient pas les mots appliqués. Si un ministère applique quelque chose, cela veut dire qu'il y a un autre qui élabore la politique en question.
Oui.
Donc, l'élaboration de la politique de l'État, c'est-à-dire la politique de l'État en matière de gestion d'affectation, c'est les plans d'aménagement.
Oui.
L'État veut créer les villes. Tout développement commence par les villes. Donc, il y a une acception générale, ça c'est le standard international, c'est ça le principe de ce secteur. Il faut d'abord un plan d'aménagement, n'est-ce pas, qui soit particulier ou local, pour pouvoir, prétendre à un lotissement. Donc un lotissement, ce n'est pas que le résidentiel comme on le fait maintenant. Et la loi est claire là-dessus.
Oui.
On ne peut pas non plus lotir une terre inculte. Elle doit être viabilisée, c'est-à-dire couverte d'abord par le VRD. Alors, vu sur cet angle-là, nous, jusqu'à présent, tous les lotissements peuvent être considérés comme illégaux parce qu'ils n'obéissent pas à l'approche légale.
Voilà.
Et c'est la vraie difficulté que nous avons dans la ville, dans nos villes qui sont devenues rurales, parce que on ne respecte pas le plan d'aménagement.
Voilà, monsieur,
on ne commence pas la gestion foncière par la distribution, mais par le plan d'aménagement qui est l'attribution régalienne du ministère de l'Urbanisme et Habitat.
Voilà. Voilà, mais directeur de cabinet Mfongi, nous avons les auditeurs appellent dans cette émission, qui sont victimes et qui veulent savoir quelle procédure suivre pour ne pas avoir un jour sa maison détruite. Nous avons un auditeur qui nous appelle à partir de Kolwezi, monsieur Gabriel, qui voudrait bien participer. Gabriel, bonjour. Monsieur Gabriel, vous êtes en ligne, bonjour. Voilà, Gabriel n'est plus là, on va peut-être le retrouver tout à l'heure. Professeur, vous venez de suivre Monsieur Fongi, vous avez peut-être un commentaire par rapport à ce qu'il vient de dire.
Je pense qu'on a dit la même chose, hein. c'est un peu ça. J'ai dit que tout commence par les plans généraux d'aménagement, quoi. Aussi longtemps que ça va pas, on va toujours tourner comme j'avais dit, quoi. Oui. Non, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit, quoi. C'est ça.
Alors, M. Fongi, quelle est aujourd'hui la procédure à suivre? Parce qu'il y a certains qui voudraient acheter des terrains à Kinshasa, mais qui commencent à hésiter, parce que demain, peut-être, il peut voir sa maison détruite. Quelle est la procédure à suivre pour s'acheter un terrain et construire sans être inquiété plus tard?
D'abord, la loi dit ici, l'ordonnance 074, qui distribue les attributions au ministère. Les lotissements est une matière à collaboration entre le ministère de l'Urbanisme Habitat et les Affaires foncières. Mais je peux aller même plus loin pour dire que le lotissement est une affaire interministérielle. Si nous tenons au prescrit du code de l'urbanisme du 20 juin 1957, les plans d'aménagement à l'époque, avant d'être approuvés, devaient avoir la participation de tous les ministères concernés. Bon, tous les ministères concernés, c'est lequel? Ce sont les institutions, toutes les institutions de la République, parce qu'une ville reçoit tout le monde. L'officiel comme le privé. Et donc, avant l'approbation d'un lotissement, il faut que tous les services concernés, et ils sont nombreux, puissent être coordonnés par l'urbanisme et Habitat, oui. Avoir la vie de chaque service. Et alors, le plan est approuvé.
Alors,
et il est publié. Publié.
Mais
le plan doit être publié. Et alors, à ce moment là-bas, on fixe les règles spécifiques pour l'accès au lotissement.
Alors, M. Fong, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un plan d'aménagement qui a été établi, approuvé par les deux ministères? Est-ce qu'il existe un plan d'aménagement de la ville de Kinshasa aujourd'hui?
Il existe un plan. En principe, le plan d'aménagement, lui, un PDU de la ville de Kinshasa, qui est un peu dépassé parce que, au fait, l'État doit donner des moyens pour l'établissement, mais il est là, il est bel et bien là, et il ne manque que sa gestion collégiale. C'est ça le problème actuel.
Mais ce plan n'est pas publié, n'est pas mis à la disposition du grand public.
Le dernier qui date de 67 a été bel et bien approuvé, mais il est dépassé. Il est dépassé d'abord par la confusion qu'on a voulu délibérément entretenir dans le secteur, et il est dépassé parce que la ville prend une extension sans feu. Et on est au-delà des limites parce que les services qui ne sont pas concernés dans la gestion foncière et dans l'extension de la ville font du n'importe quoi. Ils ne voient que le logement, l'habitation comme tissu urbain, alors que il y a plus que cela. C'est ça l'origine de la confusion.
Voilà. Appelez-nous au 081-890-6394 pour participer. Posez des questions précises à nos invités. Nous avons Serge Mamba qui nous appelle depuis Mbandaka. Serge, bonjour.
Bonjour, je dis pas chamaï, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Merci, bonjour Serge, quelle est votre préoccupation?
Oui, mais je dis pas chamaï, moi je pense que c'est l'État qui est à la base de tous ces désordres-là.
Oui.
J'ai réussi par rapport à notre vie de Mbandaka. Oui. Vous savez, il y a des terrains vendus à la population de la tour de l'hôpital général de Wangata. C'est l'État qui aurait vendu ces portions de terre à la population. Et aujourd'hui, quand les personnes qui avaient vendu sont parties. Maintenant, on a rapatrié d'autres personnes à la mairie et ces gens-là viennent demander à la population qui détient des documents énormes, des documents en forme.
Alors, Serge,
à ces endroits-là. Vous. Alors, vous verrez que c'est
alors, l'État qui est
à la base de toutes ces autres.
Oui, Serge.
Oui.
Serge, oui, c'est vrai, c'est l'État qui est à la base. Mais vous, particulièrement, est-ce que vous avez connu un problème? Votre maison a été démolie ou vous avez un problème particulier par rapport au sujet dont nous parlons aujourd'hui?
Ah oui, monsieur, je vous dis, je suis victime de cette situation et
oui.
Jusqu'à présent, je vous dis que l'État nous avait promis nous donner une portion de terre en quartier Kengele et jusqu'à présent, on n'est pas en possession de ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir légalement une portion de terre quand on bâtit et prochainement qu'on ne soit pas dérangé par n'importe quoi?
Voilà, merci beaucoup Serge pour votre question. Directeur Fong, vous avez suivi
oui.
La préoccupation de cet auditeur de Mbandaka.
Oui. Bon, d'abord, nul n'est censé ignorer la loi. Ce qui se passe actuellement, c'est que les gens ne savent pas par où commencer. La plupart des démolitions procèdent des occupations de servitudes ou des espaces non constructibles. C'est-à-dire quoi une servitude? Une servitude, ce sont c'est l'espace urbain que l'administration a prévu pour les équipements collectifs, communautaires. On ne peut pas construire, par exemple, l'emprise d'une route ou l'emprise d'une berge, d'un cours d'eau, à côté des camps militaires, des écoles, des infrastructures, des régies, des zones de la SNEL, de PTT. Ce sont des terres réservées. Ce ne sont pas des terres domaniales. Elles ne relèvent pas de la compétence du ministère des Affaires foncières.
Oui.
Hein? Alors là, pour pouvoir les occuper, il faut les désaffecter. Et la désaffectation, c'est du ressort du ministre du urbanisme et habitat. Madame le ministre, elle ne fait que ça ce dernier temps. Elle est en train d'expliquer à la population. Elle fait le tour de la République pour dire qu'il faut commencer d'abord à respecter les équipements publics, les terres publiques, du domaine public de l'État.
Oui, mais le problème maintenant, c'est que comment reconnaître que c'est un espace public réservé, par exemple, à des constructions d'intérêt communautaire.
Ah oui, mais justement, le plan d'aménagement est là. Il faut donc se référer au ministère de l'Urbanisme et Habitat, parce que l'article 204 du Code des fonctions dit que tout certificat ou tout lotissement ou n'importe quel titre octroyé en violation des avis urbanistiques, c'est-à-dire des prescriptions urbanistiques, sont nuls et de nul effet. C'est ça le problème.
Voilà.
Et là, la population ne comprend pas dès que quelqu'un... Je ne peux pas dire que c'est l'État qui lotit. Ce sont des mauvais citoyens qui lotissent.
Alors, par rapport à cet auditeur de Mbandaka, quel conseil vous allez lui prodiguer? Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant?
Bon, je n'ai pas assez d'éléments pour savoir ce qui s'est passé, mais je conseille à tout le monde, à lui, à notre auditeur, comme à tout autre citoyen congolais, comme le répète son excellence Madame le ministre, il faut attendre la publication des lotissements. Ça ne se fait pas, ce n'est pas un seul ministère qui en a la plénitude. Même nous, à l'urbanisme habitat, la loi nous dit de coordonner les interventions de toutes les institutions qui doivent, s'établir dans la ville. Donc ce n'est pas... Moi je pense que le Congolais, tout le monde qui cherche la terre pour le besoin de construction, va attendre qu'on publie le lotissement.
Mais...
Il doit y avoir une publication officielle. Pour le moment, ces habitudes ne sont permis. Il faut attendre. Ça doit être affiché, on doit demander l'avis de tout le monde. La procédure est claire.
Oui. Alors, ok, voilà, professeur José Baminikio, expert en urbanisme et habitat, vous avez suivi la préoccupation de cet auditeur de Mbandaka. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Quel conseil vous pouvez lui prodiguer?
Bon, comme je viens de dire tout à l'heure, le directeur du cabinet, donc nous devons attendre. Mais attendre, il faut qu'il y ait la vulgarisation et la sensibilisation de certaines normes urbanistiques. Dans des émissions comme ça, c'est très important pour que le gens puisse savoir un peu ce qu'il faut faire quand il s'agit d'obtenir un terrain pour la construction. Donc, ils doivent attendre. Mais certainement, la population ne connaît pas cela. Donc, il faut que les gens, les experts, nous passons le terrain pour nous expliquer. Et à ce moment-là, tout le monde sera averti, quoi. Donc, c'est comme je viens de dire tout à l'heure, le directeur de cabinet, c'est un peu ça, quoi. Donc, les gens doivent attendre parce que, d'un côté, ils sont sous-informés, quoi. Et voilà, à la fin... Ils ont des sérieux problèmes de ce genre-là, quoi.
Alors, si les gens doivent continuer à attendre et il n'y a jamais eu de publication et ils sont dans le besoin, ils ont besoin d'intérêt pour construire, il y a un chef de quartier qui lotit quelque part dans la périphérie de la ville, alors qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant?
Non, les chefs de quartier, les bourgmestres n'ont pas de compétences en matière de gestion foncière. Quoi qu'ils fassent, c'est illégal. Je n'ai pas vu ça dans un écrit quelconque. Donc le chef de quartier ne peut pas lotir, les bourgmestres non plus.
Ni les chefs coutumiers.
Le conseil de district doit avoir les autorisations nécessaires.
Ni les chefs coutumiers ne doivent pas lotir. Hein.
Qui ça, s'il vous plaît?
Les chefs coutumiers.
Mais non, au moins encore les chefs coutumiers. Si on va chez les chefs coutumiers, la loi pourrait prévoir la jouissance foncière parce qu'ils sont natifs de l'endroit. Et c'est à usage uniquement agricole.
Voilà, monsieur Fondi.
Quand il s'agit de construire, niet, ça passe à l'État.
Voilà, donc tous ceux qui ont acheté des terrains chez les chefs coutumiers, donc ils sont dans l'illégalité, c'est ce que vous voulez dire?
Ben, bien entendu. Moi, je pense qu'il y a un abattage médiatique sans précédent pour attirer l'attention des gens sur la législation française parce que elle est l'objet de diverses interprétations.
Voilà, nous avons en ligne Augustin qui nous appelle depuis la ville de Kananga. Sûrement, il a connu aussi un problème dans ce sens-là. Augustin, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation est de dire à quiconque est en train de lotir au bout des camps militaires, auprès des endroits qui sont désaffectés.
Augustin, vous-même, est-ce que vous avez connu un cas précis? Parce que le Capi Service, les auditeurs appelaient pour poser leurs problèmes et les invités sont là pour répondre directement à votre problème précis. Est-ce que vous avez un cas précis? Votre maison...
Oui, il y a un cas précis. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Bukavu, j'ai rencontré, il y a des maisons qui sont érigées auprès du camp Sayo. Au camp Sayo, vraiment, je me suis posé des questions, pourquoi le tire dans de seuls camps? Et s'il y en a aussi, ici à Kananga, non, on ne lotit pas tout près du camp comme ici, et il y a un fond, on ne lotit pas. Mais dans d'autres coins, si par exemple là à Kinshasa, auprès du camp Tchatchi que je connais bien, pourquoi lotir dans ces tels points? Parce que ce sont des points stratégiques, on ne doit pas construire sur de tels points. Mais néanmoins, je pose la question. Si le ministre donne des taux pour désaffecter de tels camps, pourquoi faut-il seulement le faire à Kinshasa alors que c'est affecté sur toute le territoire de la RDC. Ça, c'est ma question, ma première préoccupation.
Voilà, merci beaucoup, Augustin, depuis Kananga, pour votre préoccupation. Monsieur Fongui, vous avez suivi cet auditeur?
Oui, avec attention.
Oui.
Écoutez, on reconnaît qu'il y a des œuvres dans ce secteur. Il y a eu confusion depuis longtemps. Il faut faire la part des choses. S'il y a cette concurrence de la jouissance foncière, c'est parce que depuis que nous existons comme État indépendant, je pense que l'administration a oublié un facteur important, celui de loger le citoyen. Alors, il y a l'autoconstruction, chacun se débrouille comme il peut, et alors, c'est tout à fait normal que l'habitation étant implantée sur un bien fond qui est la terre, alors tout le monde a vu avoir une portion de terre. Et je vous dis que les choses sont en train d'être corrigées. D'abord au niveau de l'habitation, vous avez appris, il y a un projet de 4100 logements à travers la République pour construire 4100 logements. Ici à Kinshasa, les choses de l'État, le gouvernement ont initié différents travaux, notamment la cité de 5 chantiers avec 2 logements. Et ça va aller en augmentation. Donc les choses sont en train d'être corrigées sur tous les niveaux, à tous les échelons, de sorte que lorsque on aura mis des ordres sur l'interprétation de la loi, oui, l'étape suivante sera justement de placer chaque institution dans le contexte d'une bonne gestion foncière.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que les chefs de quartier ni les bourgmestres n'ont pas le droit d'attribuer des terrains ou des titres de propriété. Mais selon un auditeur, comment est-ce que l'hôtel de ville autorise aux communes de délivrer les titres de propriété? Ça, c'est la question d'un auditeur.
Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. D'ailleurs, je sais que les provinces sont un peu nerveuses à cause des centralisations, mais je ne pense pas que l'hôtel de ville peut donner une quelconque instruction. Je ne pense pas. J'ai été avec un ministre, le ministre chargé de notre secteur, il n'y a pas longtemps. La ville suit la loi. C'est de tous les bourgmestres. Nous venons de Kisangani avec son excellence pour la vulgarisation. Mais il y a le gouverneur, le vice-gouverneur, tout le monde qu'on a vu, a décliné cette irresponsable. Ce sont eux-mêmes, à partir d'eux-mêmes, qui prennent ces initiatives, parce qu'au fait, la terre étant aujourd'hui devenue, comme on dit, l'or à sa façon, tout le monde ne veut avoir une portion de terre. Alors
Et on a même suivi les images à Kisangani des maisons construites tout près de la piste de l'aéroport de Simitimi.
Voilà, merci beaucoup. Alors, ce n'est pas de la compétence du bourgmestre.
Et toutes ces maisons-là ont été déjà démolies?
Ben, les instructions sont données, ce sont des démolitions administratives. Elles vont, en tout cas, nous le suivons de près. D'ailleurs, une autre mission va être dépêchée à Kisangani, et même à Mbujimayi, pour que les décisions qui ont été prises en concertation avec les autorités professeurs soient d'application. Parce qu'il faut assainir l'espace urbain. Il est pollué. Et il est impossible dans des conditions pareilles de pouvoir offrir un habitat de qualité, un établissement humain qui est viable.
Voilà, nous avons un auditeur qui voudrait également poser son problème, Augustin Zongo, qui nous appelle de Lubumbashi. Augustin, bonjour. Augustin, bonjour. Augustin, vous êtes en ligne?
Bonjour.
Voilà, Augustin, quel est votre problème?
Bonjour.
Ouais, vous avez une préoccupation par rapport à l'achat d'un terrain ou à la construction? Allô, Augustin?
Oui, je voudrais juste... Oui, je vous écoute.
Oui, allez-y. Alors, quel est votre problème? Posez votre problème directement. Nos invités sont là pour apporter des solutions.
Oui, bon, je voudrais juste demander, pour nous qui sommes à Lubumbashi,
oui.
Nous avons aussi connu le même problème.
Quel problème exactement?
Démolition des maisons pour oui. Les maisons dites construites anarchiquement.
Oui. Où précisément?
Oui. Bon, nous sommes juste à côté de l'université de Lubumbashi.
Oui.
Mais ces concessions-là nous ont été données par le cadastre en collaboration avec les agents de l'université de Lubumbashi.
Oui.
Maintenant, je ne sais pas comment avoir la procédure normale, puisque et la mairie et les agents de cadastre sont toujours dans la même procédure, sont toujours en train de démolir. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire à notre niveau.
Est-ce que votre maison a été démolie déjà?
Effectivement, notre maison a été démolie, c'était avant-hier,
oui.
Par les agents de la mairie.
Voilà, merci beaucoup pour votre question. Monsieur Fong, vous venez de suivre Augustin.
Oui, je l'ai suivi.
Oui.
Je pense que pour les uns et les autres, qui sont objets de terres car, n'est-ce pas? Je pense que ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aviser que là où on veut construire, et ce que l'on veut faire, là où on veut implanter, on vous doit que là, c'est la loi qui doit prévaloir, parce qu'il est impossible que l'on puisse se détruire pour quelqu'un qui a eu sa construction sur un terrain tout à fait légal.
Oui, monsieur Fong, vous avez suivi ce qu'il dit. Il a acheté un terrain à côté de l'université de Lubumbashi. Il avait vu les services de cadastre en collaboration avec l'université. Des documents lui ont été remis. Aujourd'hui, sa maison est démolie. Qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui?
C'est ce que je dis. L'université n'est pas propriétaire de terre. L'université, tout comme tous les autres services publics, sont utilisateurs de terres de l'État. Donc, ils ne peuvent pas prétendre, et ni le cadastre université, pouvoir délivrer un titre. C'est impossible. Ça ne fait pas.
Oui, alors ces messieurs ne pourraient pas être dédommagés, rien du tout?
Je ne pense pas. À quel titre? Parce qu'il le fait déjà, il est déjà en marge de la loi. La procédure suivie n'est pas celle qui est préconisée par les textes.
Professeur José Bamilikio.
S'il vous plaît. Oui. Là, surtout, il y a une institution comme une université, mais ne doit pas offrir des terres. Au contraire, il est prévu par la loi un espace de protection de cette implantation.
Voilà, nous avons un autre auditeur en ligne qui voudrait poser sa question. André, qui nous appelle de Mbandaka. André, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors André, quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation est celle-ci. J'ai l'impression que l'État congolais prend des décisions politiques au lieu de prendre des décisions juridiques. Ça veut dire quoi? Ils prennent des décisions souvent en aval au lieu de prendre des décisions en amont. Ils laissent d'abord les gens construire dans les sites là, qu'on appelle les constructions anarchiques. Alors, au lieu d'abord d'étouffer ce phénomène-là, parce qu'il y a des gens d'urbanisme et les gens du cadastre qui vendent des maisons à l'autorisation des gouvernants et tout ça, au lieu d'abord de prendre des décisions en amont, c'est-à-dire quoi? D'éviter que les gens puissent construire là où ce n'est pas permis de construire. Je donne l'exemple de Mbandaka. Nous avons des alentours de l'hôpital général de Wangata,
oui.
Où les gens ont construit il y a plusieurs années, mais maintenant, ils ont laissé les temps. D'abord, c'est le gouvernement qui a pris la décision de désaffecter le milieu pour qu'on puisse construire. Et maintenant, on prend la décision de la démolition sans même savoir pourquoi ce sera pris cette décision d'attribuer des terrains aux personnes.
Oui. Alors,
vraiment, l'État congolais doit d'abord prendre des précautions pour prendre des décisions en amont. C'est-à-dire éviter que les gens puissent lotir les endroits qui sont interdits pour la
les lotissements.
Merci. Oui. Merci André. Professeur José Baminikio, expert en urbanisme et habitat, vous venez de suivre la préoccupation de cet auditeur. Les gens ont construit à côté en Mbandaka ou en Gata et il dit que l'État congolais laisse les gens d'abord construire. Au lieu d'intervenir en amont, l'État intervient en aval lorsque les gens ont déjà construit, les constructions ont poussé et après on vient démolir après. Professeur, vous êtes en ligne? Professeur José Bamini, vous êtes en ligne? Voilà, on va les retrouver peut-être plus tard. Monsieur Fongui, vous avez suivi la réaction de cet auditeur de Mbandaka?
Oui, j'ai suivi. J'ai suivi la réaction. Bon, écoutez, je voudrais d'abord dire ceci.
Et pourquoi l'État intervient toujours en bêta?
S'il vous plaît?
Oui, et il veut savoir pourquoi l'État intervient toujours en aval au lieu d'intervenir en amont pour étouffer ses constructions.
Mais oui, mais il faut faire la part des choses. Je ne sais pas à quelle autorité. Il y a une disposition qui dit ceci. Lorsque les plans d'aménagement établissent une prescription et que cette prescription est, mal interprétée par une autorité en matière de construction, c'est la prescription du plan d'aménagement qui a primauté, qui prévaut. Alors, j'enchaîne pour dire que une clinique universitaire ou un autre espace ne sont pas des espaces pour l'habitation, pour le résidentiel, ça sont des espaces pour l'équipement. Donc il n'est pas question d'aller lotir, quelle que soit la décision du gouverneur, elle est nulle et de nul effet.
Donc, Monsieur Fongui, on va récapituler. Vous dites aujourd'hui la procédure pour s'acquérir un terrain, il faut attendre une publication officielle, que l'État puisse publier qu'il y a des terrains à lotir et à ce moment-là, les gens peuvent aller acheter.
Oui, je dis ceci. Pour une terre inculte, il faut d'abord qu'il y ait une décision d'aménagement, un plan d'aménagement, l'extension de la ville.
Oui.
À ce moment, on établit d'abord un plan de situation, ensuite un plan topographique, et enfin, on pourrait arriver à l'aménagement et un plan de
lotissement.
Voilà notre invité est maintenant dans ses studios, monsieur le directeur Fongui. Il nous a rejoint aujourd'hui dans ses studios. On parlait avec vous tout à l'heure au téléphone. Voilà, merci d'être venu dans notre studio. Professeur José Baminiki, vous êtes toujours en ligne? Voilà, on va retrouver le professeur José tout à l'heure. Alors, monsieur Fongui, ça c'est un problème. Monsieur Songui, ça c'est un problème parce que vous avez suivi même sur l'avenue Prince des Lièges où des maisons ont été démolies dernièrement. On a laissé les gens construire et après, lorsque les constructions arrivent presque à terme, et voilà, on vient démolir. C'est la question de l'auditeur. Pourquoi l'État n'intervient pas à temps, en amont?
Oui, bon, d'abord il y a une question d'ignorance de texte. C'est lui qui initie un tel lotissement, sait parfaitement bien qu'il est dans l'illégalité. C'est pour cela qu'il n'y a pas publication. Hein? On est surpris du jour au lendemain au ministère de l'Urbanisme de voir que tel espace est loti où les constructions commencent. Et la plupart de ces constructions n'ont pas même d'autorisation de bâtir, ou alors ils ont des avis urbanistiques et non autorisés, c'est-à-dire auprès des instances qui ne sont pas du tout compétentes.
Oui.
Voilà. Donc là, c'est vraiment, on n'y peut rien. Et le cas du camp Kokolo, c'est une servitude, c'est une emprise publique.
Comment? Il y a un établissement qui est là, je crois, un établissement d'enseignement supérieur. Ça, c'est un établissement d'intérêt communautaire. Est-ce que cet établissement sera détruit ou pas?
Bon, je ne sais pas répondre directement à la question parce que je suis en train d'instruire le dossier. J'ai pas encore fait le rapport à la hiérarchie, mais déjà, je peux vous dire que tous les documents que cet établissement nous a exhibés ne sont pas du tout de nature à maintenir l'établissement à cet endroit, mais tout dépend de la décision de la hiérarchie. Parce que moi, je suis un simple expert, oui. J'ai le dossier sur ma table, mais il n'y a aucun document d'urbanisme. Bon, parce que l'espace doit être préalablement désaffecté. Encore que, pourquoi aller désaffecter là-bas? Parce qu'il est prévu, par exemple, si je m'en tiens à cette déclaration, le passage d'une autoroute à cet endroit. C'est un équipement public. Doit-on affirmer cet équipement qui va concerner 6 millions, 8 millions d'habitants de Kinshasa en faveur de, d'un établissement de 6 000, 7 000, disons, personnes. Voilà tout le problème.
Continuez à réagir, appelez-nous 081 890 63 94 ou écrivez-nous carrément à l'adresse action@radiocapi.net.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Nous avons un auditeur en ligne, Jean-François, depuis Kinshasa. Jean-François, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, quelle est votre préoccupation? Est-ce que votre maison a été démolie?
Oui, oui, moi j'étais victime du site Sokopao.
Sokopao, oui.
Oui, oui, quand on a la première fois quand nous avons construit, on nous a donné des documents légaux signés par les conservateurs du Moamba. Des contrats, nous avons signé des contrats. Et juste après, on a considéré le lotissement comme anarchique. Nous sommes allés en justice, nous avons porté plainte contre la République démocratique du Congo et l'ONATRA. Après, nous avons gagné le procès. On nous a réhabilités. Et puis après, c'est la deuxième fois, on est venu encore démolir. Alors je ne sais pas si, qu'est-ce qu'on appelle les constructions anarchiques, pendant qu'on avait des documents, tous les documents, même les ministres, l'ancien ministre des affaires foncières était venu nous réhabiliter. Il a remis quelques contrats symboles pour dire que non, nous avons gagné le procès et reconstruisez dans votre site. Et puis après, quelques mois après, on est venu, non, les constructions étaient anarchiques. Est-ce que, monsieur, l'excellence qui est avec vous là-bas au studio, il peut nous dire quelles sont les constructions qui sont anarchiques au moment où on avait des documents légaux qui nous donnaient l'autorisation de construire dans ce site-là? Voilà ma contribution. Merci, monsieur.
Merci, Jean-François. Monsieur Fongui, vous avez suivi sa préoccupation?
Oui, oui.
Site Sokopao.
Oui, oui. Bon. Pourquoi c'est Sokopao? Parce que c'est un site industriel. Il est affecté à l'industrie. Il n'est pas affecté à l'habitation.
Oui, mais on a construit. Ils sont allés en justice. Ils ont été réhabilités par la justice. Et même le ministre de l'époque est allé les réhabiliter. Et après, on vient détruire encore.
Bon, je ne sais pas ce qu'il faut penser de cette démarche. Moi, je vous dis que dans une ville, il y a des affectations des terres. Et ces affectations impératives, elles sont opposables à tous. C'est-à-dire, là où on prévoit des constructions pour l'habitation, ce sont les habitations qui doivent y être. Si c'est prévu pour une industrie ou pour, par exemple, le passage, la voirie ferroviaire ou la voirie fluviale, il faut respecter cette affectation. Le plan d'aménagement s'oppose à tous. Dans ce cas précis, le ministre des Affaires françaises, je ne connais pas lequel, a délivré des documents, des titres fonciers. Mais enfin, excusez-moi de vous dire que ces titres doivent être faux, parce qu'ils sont en violation de l'article 204. On ne peut pas construire à cet endroit.
Voilà, nous avons en ligne professeur José Bamini. On revient à vous tout à l'heure. Professeur José Bamini-Kio, vous êtes toujours en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation des Sokopao?
Vous savez, il y a un problème, parce que tout à l'heure, celui qui avait les terrains au niveau de Sokopao a dit que non, on a été réhabilité par les ministres des Affaires foncières, tout ça. J'ai dit, mais ça, c'est un peu de la confusion. Et c'est pourquoi, à un certain moment, avant que je rentre au pays, on disait, vous savez, en France, par exemple, les ministères de l'urbanisme et habitat et affaires foncières, ça fait un seul ministre, un seul ministère, pour essayer un peu d'éviter certaines confusions. Bon, moi, je pense que les problèmes, c'est au niveau de l'administration. Bon, est-ce qu'à un moment donné, à un séminaire, on se disait, est-ce qu'il n'y a pas moyen, peut-être, qu'on propose que ça soit fusionné, les deux ministères, les ministères de l'urbanisme et habitat et affaires foncières, soit un seul ministère. À ce moment-là, il y aura peut-être certaines confusions que nous allons effacer. Donc, au niveau de l'administration, il y a empiètement, à mon avis, de certaines fonctions, quoi. Donc, ça crée aussi des problèmes au niveau de gens qui cherchent de maisons, quoi. Mais ce qui est vrai, c'est que la situation qui s'est passée à Sokopao, je pense que d'après les plans que nous avons, c'est une zone industrielle, mais ces derniers temps, nous assistons à une cohabitation industrie et les habitations.
Et les particuliers,
bon, et d'ailleurs, dans mon atelier, nous avons un travail comme ça pour dire que s'il faut retenir cette partie-là comme zone industrielle, ou bien il faut les donner aux habitations, mais parce que tout à l'heure, on assiste à une cohabitation. Donc, c'est un problème que nous pouvons résoudre certainement au niveau de l'administration pour dire, par exemple, eh bien, les attributions de chaque ministère sont claires.
Oui.
Mais en pratique, il y a un certain empêtement et ce sont.
Un télescopage sur le terrain. Voilà.
Ah, oui.
Voilà. Professeur José Bamenikiyo, nous rappelons que vous êtes expert en urbanisme et habitat. Nous vous disons merci d'avoir accepté d'intervenir dans notre émission et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Marco Moulumba vient de faire son entrée dans ce studio. Bonjour Marco.
Bonjour Jody.
Quelles sont les autres questions ou réactions des auditeurs?
Oui, nous avons trois questions sous forme d'observation. La première émane de Abedi de Kinshasa. Il dit ceci, le non-respect des normes urbanistiques à Kinshasa est entre autres lié à l'inefficacité des services d'urbanisme des communes et de l'incompétence des agents affectés car leur rôle est de faire respecter la législation en la matière. Je veux savoir ce que pense notre invité à ce propos.
Oui.
Et la deuxième qui nous vient de Patrick Mwanza, de Colosi, qui la libelle comme suit. Cette construction anarchique provient du cadastre distributeur des terrains vendus sans urbanisation et plan cadastral. Le cas de 5 ans, je crois que c'était un site à Colosi,
oui,
où les agents creusent pour construire. Voilà, c'est la question de ou l'observation de Patrick Mwanza depuis Colosi. Enfin, il faut attendre le service compétent, vous n'aurez jamais un bon terrain car ils se distribuent les terrains eux-mêmes pour les revendre très cher. Ça, c'est ce que pense Romain à Lubumbashi.
Merci beaucoup d'avoir appelé, chers auditeurs, pour poser vos questions. Nous avons Didier Akolosi qui est également en ligne. Didier, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, quelle est votre préoccupation, Didier?
Ok, ma préoccupation, je cherchais à poser la question à l'invité de savoir, ici à Colosi, nous avons un problème sérieux parce que la poste de Colosi est déjà vendue. Je voulais savoir, est-ce que vraiment la place de la poste peut être vendue parce que ce sont des monuments du pays, mais ici à Colosi, c'est déjà vendu et il y a même des clôtures déjà érigées. Ça se voit, même au moment où je vous parle, je suis à quelques mètres de là, ce qui me fait très mal si ça peut être possible.
Donc les gens construisent déjà des maisons au niveau de la poste?
Non, ce n'est pas le genre. Il y a deux blancs dans l'orthodoxe qui avaient payé la place, l'espace de la poste que vous voyez, l'espace là où les gens se rassemblent, ou l'espace patrimonial.
Oui.
Ici à Colosi, c'est déjà vendu aux blancs de l'orthodoxe qui cherchaient à ériger, c'est pas une maison ou un internat pareil. Maintenant, je cherche à savoir. Parce qu'à Colosi, il y a tant de brousses, il y a l'espace vraiment énorme. Pourquoi est-ce qu'on peut vendre l'espace de la poste, comme vous voyez partout, la poste, mais là devant, on vend et on a déjà mis la clôture.
Merci beaucoup Didier d'avoir appelé. Nous avons également Godet à Kinshasa. Godet, bonjour. Godet, bonjour, vous êtes en ligne?
Bonjour monsieur le journaliste, oui. Je vous écoute.
Oui, allez-y Godet, est-ce que vous avez une préoccupation par rapport au sujet abordé?
Oui, moi je voulais réagir par rapport aux constructions qui ont été démolies sur l'avenue Prince de Liège.
Oui.
J'ai l'impression que nous, population, parfois, nous sommes très malhonnêtes. Un samedi, j'ai vu la présence de monsieur le gouverneur, André Kimbuta, sur cette avenue. J'étais de passage. Et j'ai posé la question pour se rendre compte de la situation qui s'est passée là-bas. Et les gens m'ont dit que le gouverneur est descendu pour interdire aux gens qui construisent là-bas de laisser construire parce qu'on va construire l'autoroute là-bas. Or, on commence maintenant à condamner l'État par rapport à leur construction. Étant donné que l'autorité urbaine lui-même est passée là-bas. Vous voyez, messieurs les journalistes, parfois, de telles émissions, ce sont vraiment des émissions très nécessaires. Je suis très content de toutes les réponses que vos invités.
Merci beaucoup, Godet. Voilà, merci beaucoup, Godet, d'avoir appelé. Alors, monsieur Fonji, vous avez suivi toutes ces réactions des auditeurs. Donc, il y a un sérieux problème. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Oui, excusez-moi, je m'appelle monsieur Songi et pas Fonji.
Songi, voilà.
Songi.
Songi, voilà.
Bon, je commence d'abord par avouer, c'est que mon ministre le fait déjà en toute humilité. Si la situation est arrivée à ce point de non-retour, c'est parce que le ministère de l'urbanisme habitat est trop dans une mollesse inexplicable depuis plusieurs années. C'est lui qui est le ministère de ville. Les règles de gestion de la ville, d'établissement, de fonction, de création, de modernisation devraient en sortir. Bon, alors, c'est ce que le gouvernement, à travers mon ministre, a tenté de corriger. Et vous avez suivi dernièrement que le chef de l'État, par un coup de génie, a dit révoquer, assainir le secteur par des agents véreux, ceux qui connaissent
qui
la loi,
les,
voilà,
les
et qui, ceux qui sont censés, n'est-ce pas, protéger la loi, protéger nos villes, ce sont ceux-là même qui ont péché dans la cupidité.
Alors, ce que les gens peuvent retenir aujourd'hui, si vous voulez acheter un terrain, vous devez attendre une publication officielle.
En tout cas, c'est cela, et nous sommes, entre le ministère, est impliqué entièrement là-dedans, pour faire comprendre aux gens qu'un lotissement est une affaire interministérielle et doit être étudié au voulu. Et désormais, d'ailleurs, je crois que d'autres actions vont avoir lieu pour faire comprendre à la population qu'on ne peut pas continuer dans cette précarité, dans cette confusion. Il ne peut pas y avoir des confusions.
Et la publication sera faite sur les ondes. Il y aura des affiches
partout.
Il y a
des mécanismes qui sont prévus et la population, de normalement, et être invité aussi à pouvoir apporter des critiques. Et tous les intervenants, parce qu'en fait, un lotissement qui doit être considéré comme une extension de la ville, doit avoir l'avis de tout le monde. À part les services autorisés et les expertises, il faut que la population soit consultée, la société civile, toutes les forces vives. En fait, ça doit être normalement fait de cette
façon. Alors, si un terrain est désaffecté, quel est le document? Est-ce qu'il y a un document qui démontre que voilà, ce terrain est désaffecté, maintenant les gens peuvent construire?
C'est un arrêté ministériel de l'urbanisme habitat qui doit désaffecter un terrain pour le mettre à la disposition des affaires françaises afin après procédure, pour délivrer des titres.
Alors, pour ces gens dont les maisons ont été démolies, par exemple, sur l'avenue Prince de Liège, parce que peut-être certains agents véreux, vous avez dit, du ministère des Affaires foncières, avaient attribué des documents qui n'étaient pas très bien. Maintenant, aujourd'hui, ces gens sont des victimes. Est-ce qu'ils seront indemnisés? Qu'est-ce qui va arriver après? Oui, bon, ils ont tout perdu.
Mais écoutez, quand vous construisez sur un espace interdit, la loi prévoit que les destructions, les démolitions soient
faites à votre charge.
Voilà. Alors, cette fois-ci, le trésor public a été très large en faisant les destructions à ses frais. Donc, je ne vois pas, surtout pour ce cas-là, et pour tant d'autres, n'est-ce pas, là où il y aurait indemnisation. Mais j'ai fait quand même remarquer que pour le cas de Kouet, par exemple, là où il y a l'hôpital général, le chef de l'État a été magnanime, en demandant quand même de voir ceux qui avaient un semblant des documents légaux d'être indemnisés. Et sur une centaine, je crois plus de, que c'est pas, je n'ai plus le chiffre en tête, il n'y a eu que 20 personnes qui pouvaient prétendre à une indemnisation.
Oui.
Donc là, c'est une décision qui doit être prise au niveau politique, mais au niveau de l'expertise de l'administration, pour des pareilles occupations du sol, il n'y a pas c'est pas une expropriation, il n'y a pas une indemnisation, c'est une mesure punitive.
C'est une mesure punitive. Voilà, aujourd'hui, on va s'arrêter là, M. Songhi. On pourra peut-être y revenir une prochaine fois pour parler de la procédure à suivre pour acquérir un terrain et qu'est-ce qu'il faut faire pour bâtir un terrain et pour qu'on ne soit pas victime un jour d'une démolition après. Voilà, nous vous disons merci. Nous rappelons que vous êtes des directeurs de cabinet adjoint au ministère de l'Urbanisme. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Songhi, et à la prochaine.
Merci, c'est moi qui vous remercie de nous avoir permis de vulgariser. Arrive les textes.
Il est 10h.